Florent Robin au micro et nous sommes en direct du Théâtre des 13 Vents, le Centre dramatique national du Languedoc-Roussillon de Montpellier, un lieu que j'aime bien, que je fréquente assidûment et nous allons recevoir. Nous recevons Jean-Marie Besset et Gilbert Dévaux pour un premier temps. Bonjour.
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 Je dis je reçois, mais c'est plutôt vous qui me recevez aujourd'hui en ces lieux, en ce théâtre. Voilà donc. Une saison qui commence, il y a un spectacle qui vient de commencer. Monsieur Besset, vous venez d'être nommé il y a quelques mois au Centre dramatique national. Ça n'a pas été forcément un début facile pour vous. Je sais qu'il y a eu quelques petites turbulences, mais la
Ah
saison,
bon?
j'en ai entendu parler.
Je sais pas. Oh. On exagère un peu dans cette région.
Voilà. De toute façon, nous, on est toujours au rendez-vous du théâtre et on va essayer de faire une petite présentation pour le premier semestre de la saison de ce qui se passe. RER, on en parlera en deuxième partie. Et on va commencer peut-être avec le deuxième spectacle, Louise de Villemorin.
Ben oui, de toute façon. En effet, bon, d'abord, ça fait ma nomination à laquelle vous faisiez allusion, c'était il y a un an presque déjà. Donc voilà, on a eu le temps, Gilbert Dévaux et moi, de mettre sur pied cette première saison assez rapidement, puisqu'en fait, j'ai pris mes fonctions le 1er janvier et que beaucoup de saisons étaient déjà engagées dans les théâtres publics de France et de Navarre. Donc, on a tout de suite, enfin, le projet qu'on avait et dont c'est le premier volet, donc avec cette saison 10-11, c'est de mettre à l'honneur les auteurs vivants, en particulier d'expression française. Voilà, parce qu'on est un pays qui a tendance à pas trop s'aimer en général. C'est-à-dire que.
Service français,
Y a,
ça.
oui, non, oui, c'est ça. Il y a toujours un préjugé défavorable, bizarrement. Je ne sais pas comment on dit le contraire du chauvinisme, mais voilà, on
Bonne
pense
question.
toujours que quand c'est des étrangers, des Allemands, enfin, qui font les choses, par exemple, c'est toujours mieux que ce qu'on pourrait faire nous. Donc je pense qu'il faut reprendre confiance en soi. Moi, j'ai vécu beaucoup en Amérique. Alors, l'Amérique est actuellement une culture très conquérante où les auteurs américains sont très aidés et aimés par leur propre pays, quoi. Donc, et défendus par leur propre presse, leurs propres médias. Et c'est justement de ce réservoir d'énergie chez eux qui prennent l'élan et la force de conquérir le reste du monde, quoi.
Mais c'est vrai qu'en France, on a la chance quand même d'avoir des auteurs dramatiques vivants et de qualité.
Ben oui, je crois qu'on a quelques-uns. Il y a un renouveau, je dirais, de l'école dramaturgique française. On voit bien ce qui se passe aujourd'hui au rond-point autour de Jean-Michel Ribes. J'espère qu'ici, à Montpellier, on va faire aussi un théâtre de sens, c'est-à-dire un théâtre qui met le texte au centre du dispositif et puis qui rétablit l'équilibre entre les trois intervenants du théâtre, le comédien, le metteur en scène et l'auteur. Voilà. En effet, on va après RER, donc le spectacle du mois d'octobre, on a voulu donner la possibilité à Coralie Serig, qui est une actrice rare et remarquable. Pour la petite histoire, c'est la nièce
Oui, je disais,
de
c'est un nom quand
Delphine,
même qui.
Serig. Je ne dis pas ça légèrement parce que elle a la même voix que sa tante et elle a la même élégance, je dirais, la même présence. Elle a eu l'idée d'incarner Louise de Villemorin. Et comme Louise de Villemorin me semble être une romancière tout à fait passionnante, parfois un peu oubliée, qu'on redécouvre, hein, les livres sont republiés, j'ai vu, enfin, notamment Giulietta, Le Lys à Colonne, ses poèmes même, enfin, bon, dans la
Mais
petite
d'ailleurs,
collection chez Gallimard.
y a un petit écho dans RER à Louise de Villemorin, et
Oui.
entre autres au film de Max Ophüls.
Oui, entre autres au film Max Ophüls, oui, parce que c'est un personnage qui est, le film de Max Ophüls, parce qu'un des personnages de RER, en effet, est spécialiste, enfin fait sa thèse de doctorat sur le film d'Ophüls. C'est plutôt le film. Alors le film est considéré manifestement par tous les cinéphiles comme un chef-d'œuvre de l'histoire du cinéma français.
C'est avec Daniel Darieux,
C'est avec
si je ne
Daniel
me trompe.
Darieux, absolument,
Mais elle n'aimait pas le film.
Louise de Villemorin n'aimait pas le film.
Mais elle doit quand même une fière chandelle au film. Parce que...
Les auteurs du texte sont rarement contents des adaptations cinématographiques.
Sa postérité, elle la doit quand même au film de Max Ophüls, qui est magnifique et qui transcende son œuvre.
Qui est l'un des grands chefs-d'œuvre du cinéma français.
Qui est un grand chef-d'œuvre du cinéma, oui.
Et Madame 2 est quand même un livre assez, comme ça, assez étonnant, parce qu'il est, dans la tradition française du grand roman d'amour, on va dire. C'est un petit livre, un peu dans la lignée de La Princesse de Clèves, enfin, et qui irait jusqu'à, disons, c'est pas le contraire de ce qu'écrit quelques années plus tard Marguerite Duras, quoi, dans certaines choses. Non, c'est un livre assez parfait comme ça, assez contenu. Enfin bref, en tout cas, Louise de Villemorin a donné des interviews à la radio à André Parinaud, et donc Annick Le Goff et Coralie Sérig ont décidé de couper dans ce texte, de l'ordonner pour en faire un spectacle, voilà, d'une heure et demie.
Et puis c'est un spectacle qui explore la personnalité de Louise de Villemorin, parce qu'elle est, une femme explosive, incroyable, un esprit libre, original, et ce spectacle, c'est Louise de Villemorin qui parle à la première personne, qui évoque ses rencontres, et elle a vécu avec André Malraux, voilà, avec Antoine de Saint-Exupéry, elle a connu tout le Paris littéraire des années 50, 60, et puis c'est une femme qui pense pas comme tout le monde, donc c'est assez extraordinaire de l'entendre, voilà.
C'est un tempérament.
C'est un tempérament, voilà.
Voilà.
Elle parle de l'art du roman, notamment, de façon assez, je trouve, convaincante.
Sa vie est presque son œuvre.
Oui, parce qu'elle écrit finalement, c'est André Malraux qui lui a donné l'idée d'écrire, enfin qui lui a donné l'idée de, qui l'a convaincu qu'elle avait le talent d'écrire des romans. Et ces romans sont sortis à l'époque où en France on était plutôt dans le nouveau roman, vous voyez. Donc, elle apparaissait comme quelqu'un de un électron libre par rapport à ça, enfin complètement ailleurs que là. Et en effet, enfin, c'est une personnalité qui a défrayé la chronique. Elle a eu notamment une, enfin, on a dit qu'il y avait une espèce d'histoire qui touchait au triolisme avec l'ambassadeur d'Angleterre et sa femme à la Libération, enfin, dans les années 40. Donc, on a beaucoup parlé aussi de ça. C'était une femme assez libre. Voilà, une femme libre.
Et c'est un spectacle que Coralie Sérig a préparé en lecture dans plusieurs théâtres, et notamment l'a présenté au Théâtre du Rond-Point. Et puis c'est là où nous l'avons vu, nous l'avons aimé, et nous avons décidé de l'aider à passer la deuxième marche. Donc ce sera une production des 13 vents. Elle va venir en résidence juste après RER, travailler ici avec l'équipe et présenter ce spectacle. C'est une création.
Voilà. Alors ce sera donc du 19 au 23 octobre.
Ensuite, c'est un jeune auteur montpelliérain qui s'appelle Florian Parra, qui est vivant, qui est contemporain, qui est jeune, qui vit un peu partout, mais qui est montpelliérain, et qui a écrit un texte autobiographique qui s'appelle La Chaise. C'est un spectacle qui est porté par une équipe. Une des plus inventives de la scène française aujourd'hui, qui est le Théâtre des Lucioles. C'est une équipe qui s'est constituée autour de, notamment de Martial Difunzobo, Mélanie Leray, et puis des gens que nous aimerons retrouver.
Et puis le fameux Pierre Maillet, qui est l'interprète de cette chaise. Donc.
Comme Bruno Gélin, des gens comme ça.
Pierre Maillet a notamment, enfin, et de Narbonne, lui, il avait fait un spectacle justement mis en scène par Bruno Gélin, avec qui on a aussi des projets. Et qui s'appelait autour de Molinier, qui s'appelait Mes jambes, si vous saviez qu'elles fumaient. Et Gélin et Maillet, et les Lucioles en général s'intéressent à des personnalités comme ça, très atypiques. Enfin, ils ont fait un spectacle sur Jo Bousquet, ils ont fait ce spectacle-là. Bruno Gélin en préparation, un spectacle sur l'épouse de Unica. Sur l'épouse de Bellemare, le sculpteur.
La femme de Hans Bellemare, voilà.
La femme de Hans Bellemare qui faisait des poupées.
Ils explorent souvent des sexualités à la marge. Il y a la question de la sexualité est souvent
centrale. La question du fétichisme aussi. Et là, donc, Para, bon, lui, il est vivant, contrairement aux autres qu'on vient de citer, parmi les auteurs, mais c'est une personnalité aussi libre et assez, voilà, assez iconoclaste, assez décapante, comme ça.
Et comment est-ce que vous l'avez découvert?
On l'a découvert au théâtre du Rond-Point, où ce spectacle s'est joué, dans la petite salle Roland Topor, avec Pierre Maillet. Et comme on suit vraiment ce que fait Pierre Maillet, qui est vraiment... Pierre Maillet, c'est un peu... Actuellement, il y a des gens comme Michel Faux, comme Pierre Maillet, qui sont des personnalités, des personnages. Un peu aussi Guillaume Gallienne. Enfin, il y a des gens comme ça qui ont une vis comica, qui sont des personnalités comiques et truculentes. Il me semble qu'il y en avait moins dans la période immédiatement précédente, quoi. Et il me semble qu'on renoue avec des personnalités à la Jacques Charon qu'il y avait dans les années 50. Quoi. Enfin, il me semble qu'on renoue avec des... Il y a 3-4 garçons comme ça qui ont vraiment, qui sont des acteurs de théâtre, et donc qui sont pas forcément starifiés par les one man shows, par les émissions de télévision, comme c'est le cas de beaucoup d'autres de leurs camarades, mais qui ont une existence théâtrale et qui sont en train de conquérir un public, quoi.
Voilà, donc ça, ce sera du 3 au 6 novembre.
Et le spectacle a une... Autant Louise de Villemorin, ce sera une forme très, très, très pure, basée sur Coralie, la parole, et une mise en scène, j'imagine, assez minimaliste. Autant ce spectacle, le texte qui est écrit à la première personne, qui sont les souvenirs de Florian lorsqu'il travaillait au centre Georges Pompidou et qu'il était gardien de musée. On se demande toujours, quand on visite une exposition, que font les gardiens de musée. voilà. Et Florian écrivait des petits bouts de texte au dos des programmes. Et il en a fait un monologue, mais ce monologue est complètement déconstruit, réinventé, avec un langage scénique très original par Mélanie Leray, utilisant de la vidéo, démultipliant le personnage. Là, il y a une forme très très complexe et moderne. Et on a d'abord découvert le spectacle il y a un an, et puis quand on a travaillé sur cette première programmation, en discutant avec l'équipe des 13 vents, on s'est rendu compte que Florian Para était montpelliérain, et on est rentré en contact avec lui à ce moment-là.
Une belle rencontre.
Voilà, très belle rencontre.
Le spectacle suivant, c'est un spectacle d'après Raymond Carver. Raymond Carver, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain américain, un nouvelliste. Et d'ailleurs, je crois qu'ils sont en train de, si ce n'est fait, en train de republier les nouvelles en version complète.
Oui, il y a une grosse actualité, Raymond Carver.
Il était à la une du Monde des Livres de vendredi.
Ce qui est un hasard pour nous, parce que là, c'était plutôt le lien avec Jacques Lassalle. Et je vais laisser Jean-Marie en parler parce que c'est un lien entre lui et Jacques. Mais il se trouve qu'effectivement, Raymond Carver, l'éditeur américain, donc maintenant l'éditeur français, les éditions de l'Olivier, ressortent toutes les nouvelles de Raymond Carver non tronquées.
Voilà,
on découvre que le fameux style minimaliste de Raymond Carver, en fait, était dû à son éditeur qui coupait, qui coupait, qui coupait. Et donc, on va redécouvrir Raymond Carver comme quand, je ne sais pas, on découvre la version longue de Fanny Alexandre. Voilà. Donc il y a effectivement une grosse actualité Raymond Carver cet automne.
Et c'est un hasard.
Pour nous, c'est un hasard, oui. Ouais. On est très heureux de ce hasard, oui.
De cette coïncidence, puisque moi, Carver, je l'ai rencontré à New York. Il y avait eu un échange, enfin des débats, il y a dans les années 80 avec des romanciers français. Je me souviens, il y avait Michel Brodeau qui défendait beaucoup à l'époque Carver en France. Et puis Carver, les Français l'ont découvert sans le découvrir par le cinéma, comme d'habitude. Enfin, oui. On parlait tout à l'heure de Villemorin et Ophuls. Là, c'est Carver et Robert Altman, quand il avait fait son film Shortcut, qui était entièrement tiré de nouvelles de Raymond Carver. Quoi. Donc Raymond Carver a suscité vraiment un regain d'intérêt pour cette forme courte qui est la short story, comme on dit en anglais, la nouvelle en français. Pas tout à fait pareil d'ailleurs, short story et nouvelle. Il y a quelque chose qui se perd dans la traduction. C'est pas la même culture. Voilà. Mais
la short story, c'est un genre qui est plutôt anglo-saxon. En France, quand on parle de nouvelles, on parle plutôt de romans. Et c'est typiquement anglo-saxon, la short story.
Oui. Il y a des enfants qui pleurent dans le loin. Il y a des cris d'enfants. On va croire qu'on torture des enfants au théâtre des Trésors.
On ne torture pas des enfants au théâtre des Trésors.
Non. C'est une belle journée au soleil là. Donc Carver, la salle. Alors la salle, moi je pouvais pas imaginer une première saison, une saison inaugurale dans ce théâtre des 13 vents que je dirige sans faire appel à mon maître de théâtre, mon parrain de théâtre, Jacques Lassalle, puisque c'est lui qui m'a porté sur les fonts baptismaux du théâtre en créant en 89, donc il y a 21 ans, ma première pièce, Villa Lucco, qui était une rencontre entre De Gaulle et Pétain, dans laquelle je jouais un lieutenant entre Hubert Gignoux et Maurice Garrel. Mmh. Donc Lassalle, il m'a un peu inventé quoi, dans le théâtre français, et c'est un homme avec qui j'ai une conversation depuis, enfin un dialogue continu. Il fait partie de mes amis proches et puis des hommes de théâtre qui ont donné. Enfin, c'est vraiment l'école du Théâtre National de Strasbourg de ces années-là, quoi, des années 80, puisqu'il avait comme dramaturge à l'époque Bernard Dort.
Oui.
Et comme acteur de prédilection, Hubert Gignoux, qui était le fondateur de la Comédie de l'Est, devenu Théâtre National de Strasbourg. Donc, il y avait quand même vraiment une attention pour le texte, quoi. Et donc, je pense que moi, ça m'a beaucoup marqué. Enfin, ou en tout cas, je me suis reconnu tout à fait dans ce projet-là. Et la salle est un homme très... très au service du texte, quoi. C'est pas un metteur en scène spectaculaire ou qui propose de faire n'importe quoi à propos d'un texte en contresens de ce texte. C'est au contraire quelqu'un qui trouve tout dans le texte lui-même et qui met son travail scénographique au service du texte, quoi, et sa direction d'acteur aussi. Donc voilà. Alors il a fait ce petit spectacle à Vidi Lausanne. Il le reprend en ce moment au TNP chez Schiaretti, et donc on l'a accueilli, on l'accueille volontiers, d'autant qu'il y a Catherine Rétoré dans ce spectacle et Jean-Philippe Puy-Martin notamment, qui sont des amis. Et voilà, donc à partir de 3 nouvelles de Raymond Carver.
Et ça, ce sera donc du 9 au 13 novembre.
Voilà.
On parlait d'auteurs contemporains avec la pièce suivante. On parle aussi de classiques, puisqu'il faut... Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, c'est Alfred de Musset, et c'est la rencontre entre un texte d'Alfred de Musset, ce texte d'Alfred de Musset, Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, et un texte de vous, Je ne veux pas me marier, un texte de Jean-Marie Besset. Pouvez-vous nous en dire un petit mot sur cette confrontation entre deux textes?
Alors il y a un peu une actualité Musset, enfin il y a tout à fait une actualité Musset, puisque le 11 décembre prochain, Musset aurait eu 200 ans. Alors il était loin du compte, le pauvre Alfred, puisqu'il est mort très jeune. Hein. Il est mort à 40 ans et quelques. Enfin,
avec une vie bien remplie.
Avec une vie bien remplie, mais une vie difficile. Enfin, ses pièces ont été jouées très progressivement, avec beaucoup de difficultés, notamment les pièces en un acte. Enfin, bon, il y a la fameuse histoire de sa pièce en un acte, Un caprice, qui a d'abord été jouée par une actrice à Saint-Pétersbourg en français, et ça a eu un tel succès à Saint-Pétersbourg que finalement ça s'est joué à la Comédie française, mais avant ça, ça avait été refusé partout. Donc il a vraiment, et puis il a eu des critiques très très violentes contre lui, très très mauvaises, et ça s'est, enfin, tout s'est passé un peu à l'arraché, quoi, on va dire, pour Musset. En tout cas, Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée, c'est sur le ton d'un badinage, on va dire, puisque c'est, je crois, la retranscription assez fidèle d'une conversation qu'il a eue vraiment avec une dame, et dont il était amoureux. Musset était un grand amant qui a été amoureux de beaucoup de jeunes femmes.
Entre autres de Georges Sand.
Entre autres de Georges Sand, voilà. Mais bon, enfin, avec Georges Sand, c'était plus compliqué, comme toujours avec Georges Sand, je crois, mais...
Une liaison houleuse.
Voilà, une liaison houleuse, on va dire. Mais enfin, en tout cas, il a été l'amant de beaucoup de jeunes femmes, et notamment de jeunes femmes mariées, par ailleurs. Et là, c'est la retranscription d'une conversation qu'il a eue. Je crois qu'il est rentré chez lui et qu'il a écrit ce texte à partir de la conversation qu'il venait d'avoir avec la dame en question. Là, c'est une marquise, un comte, qui sont dans une relative liberté de ton, si sexuellement parlant, je veux dire. C'est-à-dire qu'on chez Marivaux, on n'imagine pas que deux amants puissent avoir par ailleurs des amants et des maîtresses, enfin avec qui ils ont des rapports, on va dire, sexuels, pour parler modernement. Alors que là, bon, c'est une jeune veuve qui, manifestement, a une liaison avec un milliardaire. Son voisin à la campagne, Monsieur Camus, et donc et lui, lui c'est un comte qui manifestement passe ses soirées au ballet à lutiner des danseuses de l'opéra ou des chœurs, enfin des jeunes filles qui chantent, je sais pas. En tout cas, bon, donc
Les
il y a une
pirates de l'opéra.
relative, oui c'est ça, il y a une relative quand même liberté là-dessus, ce qui est un ton nouveau. Et ce jour-là, bon, ils sont voisins à Paris, et tout d'un coup, lui, il a. Enfin, moi, ce que j'aime beaucoup dans le rapport des deux, c'est que finalement, ils ont un rapport un peu frère-sœur, dans la mesure où ils ont un rapport assez intime. Lui, il n'arrête pas, comme il est voisin, de venir chez elle, comme ça. Et ce jour-là, elle le pousse dans ses retranchements, et il s'aperçoit qu'il est en fait amoureux d'elle, et pour elle, l'amour passe par le mariage. Donc, il est question du mariage. La pièce de Musset se termine par une proposition en mariage. Et ma pièce commence la veille d'un mariage. Donc ça se passe au même endroit, dans le même appartement parisien. Il y a 10 générations qui y sont passées depuis. Mais, et c'est la veille d'un mariage. Et là, c'est une jeune femme, prof de maths en prépa, qui avait interdit à l'homme qu'elle va épouser le lendemain, qui est chef de cabinet au ministère du Budget, de passer la voir la veille du mariage. Elle voulait rester seule. Et donc lui enfreint
C'est
sa
interdit.
consigne, et mal lui en prend, puisque ça va déclencher tout un tas de... ouvrir une boîte de Pandore, puisque ça va déchaîner à elle ses doutes et ses appréhensions par rapport à la cérémonie du lendemain. Voilà, donc c'est un peu l'occasion de faire le point sur ce mariage, qui est quand même une pratique qui, je crois, continue.
J'en ai entendu parler.
Non, mais enfin, c'est curieux, parce que plus personne ne la revendique, à part, comme disait Jean Ferrat dans une chanson, à part les PD et les curés, disait-il dans sa chanson, je
Oui.
crois. Plus personne ne veut se marier. Donc là, on en est presque là, mais enfin, malgré tout, et puis à Grammont, on est bien placé pour le savoir, puisqu'on a l'annexe de la mairie où les mariages ont lieu, au château de Grammont. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup toujours de mariages, et qui, comme vous savez, se terminent actuellement en France, une fois sur deux, par un divorce dans les 10 ans qui suivent. Donc, le mariage continue, tant bien que mal, brinque-ballant, mais c'est un peu l'idée de faire le point sur cette pratique si ancienne et pourtant si mal renouvelée.
Alors ça, ce sera donc du 2 au 12 décembre.
Alors je précise qu'il y a deux couples qui jouent les deux pièces. Donc, il y a d'une part un couple de jeunes comédiens frais émoulus de l'École supérieure d'art dramatique de Montpellier, donc le conservatoire brillamment dirigé par Ariel Garcia Valdez. Et donc, il m'a prêté deux comédiens qui viennent de sortir de chez lui, à savoir Bénédicte Guilbert et Clément Bertani. Voilà, qu'on a découvert en allant enfin avec Gilbert Dévaux. On fréquente assidûment les ateliers du conservatoire.
Mais c'est vrai qu'à Montpellier, on a la chance d'avoir un conservatoire d'une qualité tout à fait exceptionnelle. À chaque
Oui.
fois que j'ai vu des spectacles là-bas, c'est assez rare quand même.
Ouais, c'est un très bon système et on y voit vraiment les acteurs. Parce que souvent, quelquefois, les spectacles de sortie de conservatoire, c'est. Quelquefois, les metteurs en scène se font plus plaisir, donc on ne voit pas les acteurs. Mais là, très souvent, comme en plus c'est régulier, là notamment, on les a découverts dans le spectacle de Bruno Gélin, qui était présenté après le conservatoire, et c'était formidable.
Donc,
Et
paysage de fantaisie, ça
Paysage de
s'appelait.
fantaisie. Et eux deux, enfin, tous d'ailleurs étaient bien, mais.
Et alors, on a par ailleurs, pour jouer ma pièce, deux anciens élèves du Conservatoire national d'art dramatique, là, à Paris, donc Pascal Rénéric et Chloé Olivérès, qui est déjà dans RER.
Qui s'installe à Montpellier, qui reste à Montpellier.
Voilà. Elle est sociétaire maintenant.
Le spectacle suivant s'appelle le Yiddish Melody. C'est un spectacle musical. On va en écouter un petit bout si Bruno nous le trouve. Et puis on en reparle, on se retrouve juste après. Bruno.
Aufn Viertel liegt das Kerbel, liegt gebunden mit der Strick. Euch in Himmel flieht das Vogel, flieht sich, dreht sich in uns Rick. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht der Chopatoga ganzen mit der halber Nacht. Donna, Donna, Donna. Donna, donna, do. Donna, donna, donna. Donna, 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 do. Schreit das Kerl, sagt der Bäuer, Werge heißt ihr seiner Kalb. Wolf gekennt doch seiner Vogel, Wolf gekennt doch seiner Schwalb. Lacht der Wind im Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht der Chopatog ja ganz mit der halber Nacht. Donna, donna, donna. Donna, donna, do. Donna, donna, donna. Donna, 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 do. Bidne Kerbel tut men binden, und men schleppt sei und men schecht. Wer sot fliegel, flieht der Reufzug, is bei keinem nit kein Knecht. Lacht der Wind in Korn, lacht und lacht und lacht. Lacht der Chopatoga ganzen mit der halber Nacht. Donna, donna, donna. Donna, donna, do. Donna, donna, donna. Donna, 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 do. Donna, donna, donna. Donna, 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 do. Donna, donna, donna. Donna, 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 do.
Divergence FM 93.9 et nous sommes en direct du Théâtre des 13 Vents, le Centre Dramatique National du Languedoc-Roussillon, Montpellier. Et je suis avec Jean-Marie Besset et Gilbert Desvaux pour présenter dans un premier temps cette saison. Donc ce qu'on vient d'écouter, c'était un extrait d'un spectacle qui va passer entre le 15 et 16 décembre, Yiddish Melody.
C'est un projet porté par Eric Slabiak qui est d'abord l'âme d'un groupe qui s'appelle Les Yeux Noirs. Un groupe d'un répertoire tzigane, rome, qui trimballe un groupe de world music formidable. Et ce groupe existe depuis une quinzaine d'années, a beaucoup de succès. Et Yiddish Melody a trouvé sa place dans une programmation très théâtrale, notre programmation des 13 vents, parce que finalement, Eric... a été recherché, retrouvé des mélodies entendues dans son enfance, que sa grand-mère chantait, toutes ces mélodies en yiddish, toute cette culture yiddish qui était commune à l'Europe centrale au sens large. Et il en a fait un concert très émouvant qui lui permet disons, un peu d'archéologie musicale pour aller chercher et faire revivre ce répertoire. Il lui a fallu d'ailleurs apprendre phonétiquement les paroles yiddish, parce que c'est une langue qu'il ne parle pas, qu'il peut parler. Et puis ça lui permet de raconter aussi le destin d'une famille juive française qui est venue d'Europe de l'Est avant la guerre et qui a traversé les épreuves que l'on connaît.
Voilà, ça c'est donc Yiddish Melody le 15 et 16 décembre. Moi, ce que je peux en dire, c'est ce que je viens d'écouter, c'est magnifique. Donc ça donne vraiment envie d'aller voir le spectacle.
C'est magnifique et c'est à la fois mélancolique et joyeux.
Voilà, c'est tout à fait yiddish.
C'est quand même la fête pour finir la première partie de la saison.
Il y a un invité surprise en plus, je précise.
Oh.
Voilà.
On n'en dit pas plus.
Non.
Ah ben non, c'est une surprise.
Voilà. On va être dévoré de curiosité. On parlait du public, il y a aussi le jeune public. Il y a toute une démarche que vous avez entreprise avec le jeune public, avec des spectacles, je pense entre autres à Oh Boy.
Oui, le jeune public, la proposition pour le jeune public dorénavant se déploie tout au long de l'année. Il y aura donc maintenant du théâtre pour... alors nous, on dit plutôt tout public que jeune public, puisque finalement, une œuvre jeune public, tout public à partir d'un certain âge. Et cette programmation commence pendant les vacances de la Toussaint avec Oh Boy, qui est ce spectacle formidable qui a eu le Molière du jeune public, cérémonie qui s'est déroulée cette année tout près d'ici chez notre ami Martine Combréas à Villeneuve-les-Maglones. Et donc c'est un roman, Oh Boy, c'est un roman de Mario de Muraille qui raconte le destin d'enfants adoptés, et c'est devenu un spectacle porté par Lionel Erdogan.
C'est un spectacle qui aborde beaucoup de thèmes et parfois des thèmes un peu difficiles.
Voilà, absolument. Mais ce qui est aujourd'hui...
Il y a un côté Peter Pan un peu, hein. C'est une fratrie... C'est un aîné qui s'occupe de ses frères et sœurs, qui sont tous des enfants adoptés, donc finalement, et par rapport à la désertion des parents, je crois. Enfin.
Et il y a aussi, entre autres, le thème de la maladie, le thème de l'homosexualité. Je n'ai pas encore vu la pièce, hein, je précise, mais d'après ce que j'ai compris, il y a aussi tous ces thèmes-là qui sont développés.
Mais ce n'est pas plus dur qu'un conte de Charles Perrault.
C'est vrai. Et les contes de Grimm, on n'en parle pas. Parce
que c'est... Et en parallèle de ce spectacle, qui sera représenté... Du 26 au 29 octobre, il y aura un stage proposé pour les jeunes de 12 à 15 ans.
C'est une première, ça.
C'est une. Alors ça, je ne peux pas répondre.
Je crois.
Des stages, nous en faisons. Est-ce que c'est une première, un stage jeune public? Oui, c'est une première.
Voilà.
Voilà, Claudine me le confirme. Et c'est un stage qui est ouvert à tous. Il reste des places. Un stage d'initiation à la pratique théâtrale autour du spectacle Oh Boy, avec une invitation à voir le spectacle, avec une rencontre de l'acteur. Tout un programme qui est imaginé par le service éducatif du théâtre, et puis qui sera porté par un comédien qui s'appelle Béla Zoupone, avec qui nous travaillons sur différentes actions, notamment des programmes éducatifs.
Que nous connaissons bien à Divergence, puisque nous l'avons reçu de nombreuses reprises.
Metteur en scène, comédien, Montpellier.
Voilà, donc ça, ce stage, ce sera donc, on répète les dates, du lundi 25 au vendredi 29 octobre. Il reste encore des places, je pense.
Oui, il reste encore des places, mais...
Mais Lionel Erdogan, qui joue donc Oh Boy dans toute la France depuis un an, enfin plus d'un an même, je crois, fait ce genre d'opération beaucoup, et il est très investi là-dedans, quoi. Et les jeunes qu'il va voir, manifestement, répondent très bien à ce qu'il leur propose.
On a fait donc un petit tour d'horizon du premier semestre pour cette saison au 13 vents. On se retrouvera pour un prochain rendez-vous pour parler du deuxième semestre. Je précise que toutes les pauses musicales qui vont être passées ce matin, je vous ai demandé ce que vous vouliez. Et la prochaine pause musicale, c'est une pause musicale qui me touche particulièrement, puisque c'est Barbara, la grande Barbara, avec Monsieur Victor.
Kilomètres avant la frontière, j'avais tant marché, je n'en pouvais plus, je ne ramenais que la poussière. poussière collant à mes bottes aux semelles usées. Qu'est-ce que ça veut dire 20 ans si tu crèves devant un désert de portes fermées? Qu'est-ce que ça veut dire si tu n'as pour rêve rien que ta folie de vouloir chanter? Victor, monsieur Victor, vous aviez un drôle d'air quand vous avez stoppé, je n'avais pas confiance. Pourtant, je suis montée dans votre coupé Chrysler. Ce jour-là, monsieur Victor, sur la route du Nord, vous n'étiez pas de ceux qui posent des questions. Avec vos tatouages jusqu'aux oreilles, vous aviez l'air d'un drôle de cinéma. En crocodiamant, sous ce chapeau mou, vous m'avez dit, je suis trafiquant de voitures. On contournera la frontière. Peur de rien, j'avais la folie de chanter. Et Paris était loin, je n'en pouvais plus. Victor, oh Victor, je me souviens encore de cette auberge et du café chaud. Victor, Victor, vous aviez un cœur d'or pour moi ce jour-là sur la route du Nord. Il faisait presque nuit, j'avais beaucoup parlé. Paris n'était plus loin, j'avais le cœur serré. Quand vous avez stoppé votre coupé Chrysler, porte de la Villette, vous aviez un drôle d'air. Vous m'avez dit, chanter c'est pas un métier. Pour faire artiste, il faut des connaissances. Victor connaît la vie, tu peux lui faire confiance. Laisse-moi m'occuper de toi, t'auras plus jamais faim. Victor, Victor, vous aviez un cœur d'or, mais j'avais en moi la folie de chanter. Victor, Victor, je n'ai pas oublié ce café chaud sur la route du Nord. Victor, oh Victor, j'ai changé de décor, je chante maintenant sur les routes de partout. Pourtant, pourtant, je n'ai pas oublié ce café chaud sur la route du Nord. Monsieur Victor, vous aviez un cœur d'or.
Divergence FM 93.9 en direct du Théâtre des 13 Vents. Ce qu'on vient d'entendre, c'est bien sûr la grande Barbara, monsieur Victor. Je suis avec Jean-Marie Besset, Gilbert Desvaux, et viennent de nous rejoindre madame Andrea Ferriol. Bonjour.
Bonjour.
On ne le voit pas, mais je fais presque une référence, une révérence. Et nous sommes avec Didier Sandre pour
qui
parler.
Pas une
de...
référence.
Qui mérite une révérence aussi.
RER, donc, c'est la pièce qui a ouvert la saison, une pièce de Jean-Marie Besset. Au départ, j'ai vu le spectacle à la première. Au départ, il y a deux faits divers qui vous ont inspiré.
Oui, il y a eu le fait divers que tout le monde connaît de 2004 sur cette jeune femme, Marie-Léonie Leblanc, qui avait prétendu être agressée dans le RER par des blacks et des beurs au motif qu'elle était juive. Il s'est avéré qu'elle n'était ni juive ni agressée, mais ça avait fait un scandale énorme jusqu'au plus haut sommet de l'État, puisque le président Chirac avait réagi dès le lendemain en parlant d'un crime odieux. Il faut dire qu'on était en pleine augmentation des incidents antisémites à l'époque. Chirac avait fait son discours du Chambon sur Lignon quelque temps plus tôt. Et on était en plein là-dedans. Alors malheureusement, ça s'est avéré prophétique, puisque un an plus tard, presque jour pour jour, Ilan Halimi, un jeune juif, avait été torturé à mort en banlieue, en effet, par des blacks et des beurs dans une cité. Voilà, bon. Donc il y avait eu ce fait divers-là, enfin ces deux faits divers. L'un qui est un mensonge, l'autre une réalité. Et donc, est-ce que ce mensonge n'était pas une façon de dire une réalité? Et puis, il y avait eu un fait divers plus ancien en Amérique, lorsque je vivais en Amérique, qui m'avait frappé. d'une jeune adolescente noire aussi, la même histoire. Enfin, là, c'était une jeune adolescente noire qui avait prétendu avoir été violée et molestée par 6 policiers blancs qui l'avaient laissée dans des sacs en plastique couverts d'excréments. On l'avait retrouvée derrière sa maison. C'était là aussi en pleine multiplication des incidents raciaux. Les tensions raciales étaient à leur comble. C'était dans les années 80, près de New York. Et avant qu'on découvre que cette jeune fille avait imaginé de toutes pièces son histoire. Et elle avait eu, en l'occurrence, un avocat qui était Al Sharpton, un activiste noir, qui lui est monté d'un cran en disant mais que ça ait eu lieu ou pas, ça aurait pu avoir lieu. Donc il est monté d'un cran, et donc c'est lui, c'est ce personnage d'Al Sharpton. C'est l'Amérique quand même 20 ans avant l'élection d'Obama, hein. Mm-hmm. Donc ça a beaucoup changé en 20 ans aussi. Cet Al Sharpton m'a inspiré le personnage qu'interprète Didier Sand, le personnage de l'avocat dans RER, quoi.
Il était noir.
Oui, l'avocat et la victime étaient noirs. Oui, tandis que
c'est vrai que l'avocat, en l'occurrence, là, est juif, homosexuel, de gauche, mais il n'est pas noir.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'histoire au moins américaine, l'avocat était noir comme sa cliente. Tandis que là, il prend l'affaire au départ parce qu'il pense que c'est une chose très emblématique, ce qui vient d'arriver, avant de découvrir que sa cliente est une mythomane et qu'en plus, elle n'est pas juive. Mm-hmm. Donc, y a aussi cet aspect-là, quoi, des choses.
Et en fait, cette mythomanie, donc, c'est aussi, ça permet aussi de faire se rencontrer des gens qui n'auraient pas dû se rencontrer.
Ah oui, oui, absolument. C'est le côté, comment dire, Pirandello de la chose. Il y a cette référence à la pièce de Pirandello, Vêtir ceux qui sont nus, qui est aussi une adolescente. Là aussi, l'histoire d'une adolescente ou post-adolescente, on va dire, qui, pour attirer l'attention sur ses problèmes personnels, avait fait une tentative de suicide dans l'Italie des années 1890. Et ça l'a amené à rencontrer un grand romancier, Monsieur Capuana, Luigi Capuana. Et donc, Pirandello en a tiré sa pièce 20 ans plus tard, aux grandes dents. D'ailleurs, de la veuve Capuana, qui était le personnage d'Ercilia et qui, entre-temps, avait épousé Capuana et qui a dit Pirandello, qui était un ami en plus à eux, détrousse les morts et piétine les vivants. Quoi. Donc, mais la pièce avait été un grand succès à Rome tout de suite. Et c'est finalement ces trois personnages d'adolescentes à la dérive sur 100 ans, plus de 100 ans d'écart, m'ont inspiré ce personnage de Jeanne, incarné ici par Mathilde Bisson. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus fort que la mythomane, c'est quand même l'image rêvée de l'écrivain, quoi. C'est quelqu'un qui raconte une histoire. Et est-ce que cette histoire n'est pas symptomatique de quelque chose qui touche au cœur de la société dans laquelle on vit ? Parce que là, finalement, comme vous disiez, ça permet à des personnages de se rencontrer qui n'auraient pas dû se rencontrer. Donc l'histoire, elle est mosaïque, elle est faite de destins très différents les uns des autres. Hein. Certains ont des problèmes de pure survie, puisque les problèmes, c'est de... Il y a une rencontre d'un jeune couple, donc Jeanne et Joe. Et Jeanne, elle doit ouvrir sa caisse au Lidl de Drancy à 7h du matin et son petit copain l'empêche de dormir parce que lui, il va dealer du shit au Halle, à Paris. Et puis on passe directement de ça à ce grand avocat du centre-ville qui habite peut-être rue Saint-Honoré et qui tout d'un coup ressort ses photos de Louise de Villemorin et avec une jeune étudiante du quartier latin qui lui dit mais est-ce que vous diriez qu'il y a une intertextualité entre André Malraux et Louise de Villemorin. Donc c'est ça le monde dans lequel on vit, c'est ce contraste là, quoi.
Et il y a aussi le personnage de la mère qui est joué par Andrea Ferriol.
Oui, c'est un personnage, c'est une femme populaire, c'est une femme qui souffre dans son corps, c'est une femme qui doit travailler, c'est une femme qui ne sait pas comment prendre sa fille, cette fille qui lui échappe, et en même temps, elle l'aime. Mais c'est une femme qui est raciste, homophobe, xénophobe. Enfin, qui, je crois que c'est une femme qui souffre, une femme qui est malheureuse et qui exprime des clichés comme ça. Mmh. Mais au fond d'elle, il y a quand même une humanité qui apparaîtra petit à petit dans la pièce, j'espère.
Et on disait que c'est des personnages qui, a priori, n'auraient pas dû se rencontrer. Voilà. La rencontre entre la mère et l'avocat, sur la fin, il y a une rencontre qui se fait et la mère qui ne passe le temps depuis le début à faire des propos racistes, homophobes, terribles, et qui rencontre cet avocat parisien qui est lui homosexuel et qui...
C'est tout ce que je déteste, en fait. C'est ce qu'elle dit pendant une heure et demie, quoi.
Oui.
Et à la fin, eh bien, elle a quand même pas de l'affection, mais de la compassion pour lui. Elle comprend son problème, elle comprend sa solitude, elle comprend sa douleur. Et je crois que c'est ce qu'il y a dans la pièce aussi, que Jean-Marie n'a peut-être pas signalé, c'est cette grande solitude qui est chez tous les personnages.
Mais c'est vrai que le personnage de la mère, d'une certaine façon, à cause de l'acte incroyable de sa fille...
Oui.
Et finalement, la fille accouche de la mère, en quelque sorte,
oui.
À la fin.
C'est-à-dire, oui,
par son acte, elle la révèle, elle la change, elle la modifie.
Oui.
Il y a une modification à cause de cet acte, une évolution.
Absolument, absolument.
C'est vrai qu'à la fin, plus personne n'est pareil.
Ah
tout
non.
Le monde a...
ah non.
On va faire une petite pause musicale.
Sauf peut-être l'avocat, non,
oui.
Didier ? Est-ce que tu es pareil à la fin qu'au début ? Est-ce que tu es modifié, toi ?
Oui, moi je me sens modifié à la fin du spectacle parce qu'il y a eu une part de vie qui s'est déroulée pendant deux heures et qui a suscité des rencontres, des chocs, des émotions, des revirements, une espèce de bilan, etc. Et pour en arriver où finalement à cet aéroport où deux personnes extrêmement différentes, comme on vient de le voir, sont renvoyées chacun à leur propre route solitaire.
On fait une petite pause musicale. La prochaine pause musicale, c'est Vivaldi, puisque c'est dans le spectacle.
Exaltat,
Divergence FM 93.9 et nous sommes en direct du Théâtre des 13 Vents. Nous sommes avec Jean-Marie Besset, Gilbert Desvaux, Andrea Ferréol, Madame Andrea Ferréol et Didier Sandre pour parler de RER. La pièce qui est actuellement à l'affiche des 13 Vents.
Madame jusqu'au Andrea Ferréol,
jusqu'au 9 octobre.
C'est pas mademoiselle Andrea Ferréol qu'il faut dire, normalement, pour une grande actrice.
Mademoiselle, mademoiselle.
Ou la Ferréol.
La Ferréol.
Ouais, c'est une Italia.
Alors, madame Ferréol ou mademoiselle Ferréol, comme vous voulez. Il y a quelques temps, Divergence FM était en campagne de soutien. Nous avions des petites difficultés financières et nous avions demandé à tous nos amis de participer. Et vous aviez à cette époque adressé un message de soutien à Divergence qu'on a retrouvé dans nos archives et on va écouter ça tout de suite.
Bien, écoutez, moi je pense que tous les gens de votre région, en tous les cas les Montpelliérains et toute la région autour, devraient vous envoyer un petit chèque. Parce que vous êtes une radio jeune, dynamique, et que en fait vous diffusez les musiques que vous avez envie de diffuser, que vous êtes beaucoup plus libre que les radios nationales, que vous n'avez pas de contingence et de compte à rendre à personne, et que donc il faut absolument vous soutenir, et que je suis pour que vous continuiez à exister, car vous faites un travail formidable.
Alors.
Voilà. Donc voilà, mesdames, messieurs les Montpelliérains, vous venez d'entendre, eh bien, continuez à envoyer de l'argent à Divergence parce qu'ils sont vraiment géniaux.
Et c'est un peu
elle
grâce
est,
à
elle
vous.
Est bien, elle est bien. Hein.
Donc un grand merci à vous. C'est un message qui a tourné en boucle pendant très longtemps à Divergence. Et,
j'espère donc, qu'ils ont été généreux.
Voilà, eh bien, on va rénover le matériel. Bientôt, on va avoir un matériel tout neuf, tout beau, des nouveaux locaux. Donc, c'est
ah
un
bon,
peu
donc
à
je
vous.
Dis merci à toutes les personnes qui vous ont aidé parce que, et qui ont envoyé un chèque parce que ça, c'est très important. Mais je pense que le matériel a vraiment besoin d'être rénové. Donc, continuez. Je le vois continuer, il faut encore un petit effort. Bah écoutez, moi-même, je vais leur signer un petit chèque. Voilà.
Ah ben voilà une bonne
et
nouvelle.
Je vous le donne tout à l'heure.
Merci à vous. Donc RER, RER, oui. Donc c'est la pièce qui a inauguré la saison. Moi, je voudrais un petit peu poser la question à Gilbert Desvaux, c'est vous qui êtes le metteur en scène.
Oui.
Et comment ça s'est passé? Comment vous avez abordé les choses?
Écoutez, le spectacle s'est construit progressivement puisque Jean-Marie, je crois, a écrit la pièce en 2005 ou 2006. Et très vite, comme dans notre compagnonnage, je lis. Et puis, comme nous animons le Festival Nava que nous avons créé à Limoux, Languedoc-Roussillon, dans l'Aude, on a pu immédiatement faire une lecture-spectacle. Donc ça s'est fait à l'été 2006. Avec notamment Andrea et Didier qui étaient tous les deux nos premières idées puisque quand il s'agit de monter du théâtre, la première question c'est la question de la distribution. Mmh. Et particulièrement je trouve pour le théâtre de Jean-Marie qui, il y a plusieurs façons d'écrire, il y a plusieurs sortes de théâtre, il y a du théâtre de troupe, il y a des théâtres, voilà. Et Jean-Marie c'est un théâtre... qui a peut-être une base classique avec une langue très, très structurée, très ciselée. Et je pense qu'il a besoin d'interprètes, disons, exceptionnels. Donc la question de la distribution est capitale. Et Andrea et Didier étaient nos premières idées. Ils ont lu tout de suite et ils ont tout de suite dit oui. Mmh. Didier a lu plusieurs pièces de Jean-Marie. Enfin, en parler et puis cette fois-ci il est tombé amoureux du personnage et tout de suite il s'est engagé sur le projet et donc nous avons fait cette lecture spectacle à l'époque avec 8 chaises contrairement à aujourd'hui où c'est un peu plus compliqué en termes de scénographie et la pièce fonctionnait magnifiquement. Jean-Marie a pu retravailler, c'est le principe du Festival Nava, c'est un laboratoire, on entend les textes. Et puis, après, c'est le parcours du combattant d'une structure indépendante, de chercher un lieu. On a fait plusieurs lectures, on a essayé. Voilà. Et puis, le Théâtre de la Tempête s'est engagé, Carcassonne s'est engagé. Et puis est arrivée la nomination CDN qui a permis d'enclencher une vraie production. Et à ce moment-là, nous avons eu l'aide du JTN qui s'est engagé, donc le Jeune Théâtre National, et on a fait des auditions ouvertes au conservatoire en ne stipulant aucune... Enfin, on a ouvert les quatre rôles des quatre jeunes, et puis on a vu beaucoup de monde. Et c'était intéressant... parce que on a, voilà, notamment les quatre acteurs que nous avons retenus ont passé les deux rôles. C'est-à-dire que, voilà, par exemple, la scène a passé les rôles de l'ingénieur et puis les rôles de Joe. Et Mathilde, pareil. Voilà. Et puis, ce sont les quatre qui sont sortis du lot, avec qui on a, voilà, et puis on a hésité, on a tourné. Et la combinaison, c'est Les rôles se sont distribués. Didier notamment est venu à la toute fin. Andrea aussi. On a lu ensemble et je crois qu'on a réussi à créer une troupe d'acteurs formidables. Chacun est formidable dans son rôle, mais c'est quand même une troupe avec un vrai esprit d'équipe.
Mais d'ailleurs, les jeunes comédiens, on va les retrouver, ils vont pouvoir s'exprimer sur cette antenne. Alors, Madame Ferriol, la dernière fois, quand j'étais voir le spectacle, je vous avais demandé si vous aviez un morceau de musique qui vous ferait plaisir. Vous m'aviez parlé de Maria Callas dans la Tosca. Donc, j'ai trouvé un enregistrement de 1963 sous la direction de Georges Prêtre. C'est un extrait de l'acte 2 et j'espère que ça va vous faire plaisir.
Mille merci.
Divergence FM 93.9. C'est très difficile de parler après Maria Callas. Nous sommes au Théâtre des 13 Vents en direct. Nous parlons de la pièce RER et je suis avec les jeunes comédiens qui sont dans la pièce. Je vais vous laisser vous présenter, d'abord pour ne pas écorcher votre nom. Qui veut commencer?
Ladies first.
Donc moi je suis Chloé Oliveres et je joue Onyx, la jeune intellectuelle
qui s'intéresse à Max Ophuls,
voilà,
et
exactement,
à Roland Barthes.
Exactement.
Donc moi je suis Mathilde Bisson et je joue Jeanne.
Donc Jeanne, vous jouez la mythomane.
La mythomane, pas que mythomane.
Mais c'est elle qui est à l'origine un petit peu de toutes ces rencontres dont on parlait tout à l'heure.
Bonjour, alors moi je m'appelle Marc Arnaud et je joue Joe, le petit ami de Jeanne. Voilà. Donc je gère avec la mythomanie de ma compagne. Voilà.
La scène Razougui, je joue l'ingénieur centralien de droite et le petit ami d'Onyx.
Alors comment ça s'est passé de votre point de vue, en fait, cette rencontre autour de cette pièce? Vous avez d'abord rencontré Jean-Marie Besser ou comment ça s'est passé?
Alors on est tous sortis du conservatoire, donc il y a eu la proposition des auditions pour les rôles, en fait, pour les quatre rôles de jeunes pour la pièce. Une audition où on avait la chance, en fait, de pouvoir proposer donc pour les garçons le rôle de Joe ou le rôle d'Agi. Pour les filles, c'était la même chose. Elles avaient l'opportunité de présenter un des deux rôles ou les deux rôles. Et puis, je sais que pour ma part, on a eu une discussion pour savoir quel rôle m'intéressait le plus. Et puis, on a parlé aussi avec la scène. Et on a discuté de savoir ce qui nous intéressait le plus, ce qui était le plus intéressant pour la pièce, donc aussi de leur point de vue d'auteur et de metteur en scène. Et puis, les choses se sont lancées de cette façon-là.
Et la scène, donc, vous jouez l'ingénieur de droite, comme vous disiez. C'était pas forcément évident pour...
Pour rejoindre ce que dit mon ami Marc, on a voulu péter les clichés un petit peu. Quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, ce qui est évident, c'est que moi, je joue la petite racaille qu'interprète Marc, Joe. Enfin, j'emploie des termes un peu...
De droite.
Voilà.
Parce que pour les auditeurs qui n'ont pas la chance d'avoir la couleur, la scène Razougui a le teint plutôt hâlé.
Voilà, je suis plutôt noir et beurre, les deux mélangés. Donc, on a voulu péter les clichés parce qu'en tant qu'artiste, lui interprétait que des rôles plus ou moins bourgeois et moi les rôles du prolo. Et artistiquement, on voulait aller ailleurs. Mmh. Voilà.
On va faire une petite pause musicale avec Radiohead. Si Prudeau veut bien.
When you were here before, couldn't look you in the eye. Just like an angel, your skin makes me cry. You float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I wanna have control.
whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't belong here. Voilà, vous êtes sur Divergent sur le 93.9 et c'est la troisième partie de cette émission spéciale en direct du Théâtre des 13 Vents. Alors, bah, c'est Yves au micro, et avec à côté de moi Florent qui me regarde d'un air un petit peu inquiet.
Moi, je laisse la place aux jeunes maintenant. Ah, je m'efface.
Place à la jeunesse.
Voilà, et donc on est donc sur le troisième plateau, qui est le plateau avec les jeunes comédiens qui sont dans la pièce donc RER. Et on parlait tout à l'heure en fait des rôles pour les auditions, de votre rencontre avec Jean-Marie Besset. Et donc vous avez chacun joué deux rôles différents au moment de votre audition. Et je voulais savoir, on va commencer peut-être avec Mathilde et Chloé. Je voulais savoir en fait comment est-ce que vous avez eu peut-être des affinités avec le rôle de Jeanne, peut-être plutôt que celui d'Onyx en fait.
Oui, à la première lecture, j'ai eu un vrai coup de foudre pour Jeanne. Ouais. Je suis tombée vraiment amoureuse de cette nana.
dis donc.
J'aime bien Jeanne. Et c'était une évidence, quoi.
C'est pas de l'homosexualité, du tout.
Et Jeanne, j'ai dit, il faut que je joue Jeanne. Donc, à l'audition, c'est vrai qu'on pouvait jouer les deux rôles. Mais moi, je suis arrivée, j'avais préparé ma scène, je jouais que Jeanne. Et c'était ça ou rien. Et donc Gilbert et Jean-Marie m'ont dit oui, c'est pas mal, mais essaye d'apprendre une scène avec Onyx, on aimerait voir un peu ce que ça peut donner. Alors j'y suis allée un peu à contre-cœur, j'ai essayé de... il me trouvait un peu trop grande pour Jeanne, c'est ça ?
Il y a le metteur en scène qui est à côté, qui rôde.
Non, c'était
trop glamour, tu m'as dit.
Au début, oui. T'étais arrivé avec tes lunettes de soleil. Et puis tu levais les lunettes de soleil. Vous m'avez reconnu. C'était très, très drôle. Ouais. Mais c'était bien d'essayer. Et puis en fait non. En fait. C'est-à-dire qu'elle était crédible dans les deux personnages. Tous, ils étaient crédibles. Mais après, il y a la rencontre d'un acteur avec un personnage. Il se passe quelque chose... Et c'était, voilà, c'était pour les quatre, c'était évident. Et Mathilde, quand elle on retrouvait dans Jeanne quelque chose qui était plus fort, plus étonnant. Et puis on sentait tout le potentiel derrière.
Ça a été difficile comme décision, non ? Parce que c'était long.
Ça a été difficile, oui. Si, on savait, mais... si tu veux, c'est... Oui, parce que le rôle de Jeanne, c'est un rôle très complexe à interpréter. Très complexe. On avait fait une première expérience quand on avait fait la lecture spectacle dont je parlais avec une autre actrice. Et puis le temps a passé et ces acteurs-là, on avait déjà plus l'âge des personnages, des rôles, et qui était une version plus presque misérable, je vais dire, plus malheureuse, quoi, plus pleureuse. Alors qu'avec Mathilde, il y a quelque chose de plus dingue, de plus dans l'invention, qui est d'ailleurs, je crois, plus proche du rôle de... C'est pas un drame de la misère sociale. La vie de... Bien sûr, c'est des gens qui luttent, comme disait Jean-Marie, mais qui luttent pour la survie, mais on n'est pas dans... c'est plus quelqu'un qui veut s'inventer une vie, et je pense que il y a quelque chose de la télé-réalité. C'est accéder à la notoriété, c'est changer de vie, c'est l'ascenseur social qui est en panne, et comment faire pour... je crois que c'est quelqu'un qui est plus dans l'invention et dans le rêve et dans cette folie qui l'amène à la mythomanie que strictement la petite marchande d'allumettes pieds nus dans la neige l'hiver.
Le comte d'Andersen, quoi.
Elle a passé les auditions pour Top Chef, elle les a pas eues.
Et Mathilde, voilà, Mathilde avait clairement ce potentiel et elle l'a prouvé sur scène.
Et je voulais savoir aussi, Chloé, toi tu joues Onyx dans la pièce, oui. Et j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui te plaisait peut-être plus particulièrement en fait dans ce rôle-là?
Et donc moi c'est pareil, ça a commencé un peu sur un petit malentendu, c'est-à-dire que j'ai préparé les deux rôles pour l'audition, mais j'étais sûre que j'étais plus Jeanne. Je me voyais vraiment plus Jeanne parce que je sais pas, j'avais l'impression d'être de correspondre à ce truc de fragilité, de moi je la voyais un peu petite chose cette nana. Et en fait, je passe au Nyx. J'ai quand même passé au Nyx parce que je trouvais que c'était un très beau personnage, mais je me disais, j'ai aucune chance. Et je passe la scène de Nyx et ça leur a plu. Et ils m'ont dit, oui, tu pourrais faire les deux, mais au Nyx, c'est vraiment une évidence. Et donc, ça m'a beaucoup...
Ça t'a surpris ?
Oui, beaucoup. Ouais.
Et c'est une bonne surprise ?
Oui, oui, c'est une super surprise. Et puis, aujourd'hui, je me rends compte en plus que c'était vrai. Enfin, que je suis... proche de ce personnage à plein de mes partenaires hochent de la tête.
Marc, un personnage qui l'a révélé.
J'acquiesce.
C'est vrai que ça m'a révélé peut-être un peu. Ça m'a révélé des choses en tout cas sur moi.
Ouais.
Notamment, mais Chloé a quelque chose, c'est qu'elle est crédible en intellectuel. Toi, je ne sais plus. Mais Chloé, elle est.
Et Dieu sait pourquoi.
Chloé est crédible en intellectuel. Le rôle a plusieurs facettes. C'est un personnage complexe. Mais il y a cette dimension. Il faut voilà. C'est une intellectuelle. Onyx et Chloé est crédible en intellectuel.
Est-ce que Marc Arnaud est crédible en Joe, en racaille?
C'est la question qu'on va lui poser.
Exactement.
Alors, Marc Arnaud.
Alors je dois parler de ma propre crédibilité, c'est ça ?
Est-ce que tu t'es senti tout de suite à l'aise dans les pompes de Joe, je vais dire ?
Non. Oh. Non, je me suis pas senti tout de suite à l'aise dans les pompes de Joe, mais c'était pas c'était parce que il y avait cette idée du personnage que ça devait être pour moi, de ce que ça représentait, et c'était très loin. Mais a priori c'était voilà une des raisons pour lesquelles ça m'intéressait de travailler sur cette pièce. Et maintenant, j'ai moins de problèmes, surtout depuis... Alors, c'est un peu un appel, en fait, que je lance. Parce que j'ai lu sur un blog quelqu'un qui disait que j'étais très antipathique sur le plateau et qui se demandait si c'était le personnage ou alors l'acteur. Alors, je lance une invitation solennelle à cette personne. Je te propose qu'on se retrouve dans un petit bar à Montpellier. J'en connais un très sympa, un bar à vin, qui s'appelle L'Atelier. Je vous conseille d'y aller. Et voilà, je lui propose de lui offrir un verre et de lui montrer à quel point je peux être un garçon très charmant. Voilà.
Oh mais je pense qu'on n'en doute pas.
Mais je t'en remercie beaucoup.
Bon, et la scène alors, quoi, ce rôle
c'est un peu un grand tournant, un grand virage dans ma vie parce que c'est un des rôles, on ne m'a jamais distribué dans des rôles comme ça, hormis à l'école où j'interprétais des Shakespeare ou quoi que ce soit. Et vraiment, tous les soirs, j'aborde ce rôle de façon particulière dans le sens où je suis d'origine marocaine, arabe et noire. Et on ne m'a jamais donné le rôle d'un ingénieur, d'un espèce de... pas d'intello, mais de droite, comme ça. Et je suis très touché, j'ai beaucoup de gratitude à l'égard de Jean-Marie Bessé et Gilbert Devaux qui m'ont donné l'occasion... et qui ont donné à l'occasion à certaines personnes en face de voir que oui, on peut être arabe et noir, on peut avoir des idées, et on peut être ingénieur aussi, c'est très important.
Finalement, ça donne une sorte de dimension politique,
c'est politique.
À cette pièce.
Ouais. Absolument, c'est politique, et puis même avec c'est-à-dire qu'on avait très peur en abordant ces rôles-là, parce que même dans notre inconscient à nous, c'est-à-dire aux deux, on ne va pas parler de l'inconscient collectif des autres, dans notre inconscient, on doutait sur le fait d'aborder des personnages comme ça. Parce que déjà à l'école, on interprétait des rôles qui étaient, selon les metteurs en scène, proches de nous. Et c'est de la connerie. C'est de la connerie parce qu'on fait un métier d'art, on est des acteurs, on peut faire des chiens, on peut faire des chats. C'est-à-dire que voilà.
Fais le chat pour voir.
Miaou. Et voilà, et puis c'est du bonheur. Je suis très content de faire partie de ce projet, de l'équipe. Et quoi dire de plus ? Venez nous voir.
Je trouve que en plus, du coup, il y a des choses qui sont révélées. Enfin, il y a des choses qui sonnent dans la pièce, d'autant plus que c'est toi qui fais agir.
Absolument.
Par exemple, tous les passages sur la colonisation et tout ça, c'est extrêmement incisif. Du coup, enfin, ça, c'est vraiment.
Ça donne une autre lecture en fait à la pièce.
Ouais.
Quoi.
Ouais.
Oui, parce que on traite le français un petit peu prolo d'arabe. Et c'est l'arabe qui joue le rôle d'un... Donc ça casse les clichés un petit peu, et c'est super. C'est super, c'est tout ce que j'attendais.
Ouais, c'est un peu l'inversion entre Joe et... Oui, c'est ça, justement, c'est l'inversion entre Joe et Adji, quoi.
Absolument. Exactement. Je tiens à dire aussi que quand je vais au théâtre, je ne vois pas ça souvent. À vrai dire, je ne l'ai presque jamais vu, hormis dans les troupes avec Peter Brook ou Declan Donnellan, mais qui sont des anglo-saxons et qui sont bien en avance par rapport à nous, Français. Et vraiment, je ne le vois pas assez au théâtre. Je vais au théâtre et ce qu'on me vend comme image, comme illusion... Ben, le roi, il faut qu'il soit blond aux yeux bleus, et puis le serviteur, éventuellement black ou beurre, quand on a besoin, quand on en a besoin, je veux dire.
Oui, tout à fait. Mais vous n'en êtes pas, c'est pas votre premier rôle, bien sûr. Si vous avez déjà joué avant au théâtre.
Oui.
Bien sûr. Non, je veux dire. Et du coup, oui, excusez-moi. Et du coup, je voulais vous demander, en fait, par rapport à Didier Sandre et Andrea Ferréol, qui vous ont un petit peu. Ils ont donné quand même leur avis pendant l'audition. Et est-ce que ça vous mettait la pression de jouer avec ces deux grands comédiens ?
Bah, pour ma part, j'ai trois scènes avec Didier. Et moi, je sortais juste du conservatoire. J'ai été très, très impressionnée. Et ça a été un peu difficile au début pour moi de le considérer comme un partenaire de jeu normal. Je jouais avec Didier Sandre, quoi. Ça a été difficile. Ça a mis du temps, quoi.
Ouais, c'est quelque chose de symbolique là-dedans, en fait. Ouais.
Et Andrea, Andrea, c'est tempérament de feu. de suite, c'était une rencontre. De suite, sa fille, allez, c'est Andrea, quoi. Donc, c'est qui joue ma mère, oui, pardon.
Oui.
Donc, non, j'ai pas eu ça. Peut-être je devrais dire, oh mon Dieu, Andrea Ferréol.
Non, pas du tout, parce que c'est chiant, en fait. Enfin.
C'est pas
du tout un rapport en plus qu'ils ont posé avec nous de starification. C'est vrai qu'on a créé le spectacle en fait à Carcassonne et on vivait tous dans une même maison à Limoux. Et je pense que voilà, Didier et Andrea auraient pu demander à être à l'hôtel et tout ça, mais cette histoire a commencé par toute l'équipe qui prenait ses repas ensemble et les petits déjeuners aussi. Voilà, donc il y a quand même un rapport assez simple au travail qui s'est fait et assez tendre en fait. Pour ma part, je trouve qu'il y a une vraie tendresse dans le rapport qu'ont Didier et Andrea avec nous, les jeunes.
Absolument. Et oui, et puis c'est une école tous les jours de jouer avec des gens comme ça, de les côtoyer, parce que tous les jours, ils nous inondent de leur expérience, de leur générosité. Et jouer avec des gens comme ça sur le plateau, c'est juste... je sais pas, c'est juste, on n'a pas besoin de jouer. Je veux dire, la première fois, je me rappelle en audition, j'étais beaucoup traqué comme Chloé parce que c'était Didier Sandre. Et à un moment, il me regardait comme s'il me disait « T'inquiète pas, je suis là avec toi ». Et c'est rassurant de jouer avec des gens comme ça.
Très bien.
On va peut-être faire une petite pause musicale et j'aimerais bien que Marc Arnaud nous parle de Gisèle. Si tu veux bien.
Oui, je veux bien. Alors Gisèle, c'est une chanson que j'ai écrite et que j'ai composée. Et je vais vous laisser la découvrir. Voilà, c'est mon groupe, c'est un jeune groupe. On démarre, on s'appelle Marc Arnaud et les Chacos. Alors on n'a pas de concert prévu sur Montpellier. On a quatre concerts qui arrivent sur Paris. Et je pense que vous comprendrez très bien de quoi cette chanson parle.
C'est une première diffusion à la radio.
C'est un baptême. C'est notre baptême de radio.
Un dépucelage.
Et c'est sur Divergence FM.
Merci Divergence.
Son sein j'ai bu. Mais comment faire, puisqu'elle m'a vu tout nu. Mais comment faire, puisqu'elle m'a torché le cul. J'aimerais tant pouvoir faire taire en moi les pensées de ma mère. Il devait être 9h30, elle m'a poussé dans l'univers, puis espéré toute sa vie que je puisse faire machine arrière à l'âge où l'on est. sans elle, elle me guettait jours et nuits. Une caresse, une mamelle, j'ai donné du sens à sa vie. Mais comment faire, puisqu'à son sein j'ai bu. Mais comment faire, puisqu'elle m'a vu tout nu. Mais comment faire, puisqu'elle m'a torché le cul. L'acharnement, l'admiration, l'attente d'un mon fils, c'est bien. Je voudrais de l'indifférence, je voudrais t'en briser ses liens. Faire taire sa voix dans mes silences, désenchaîner mon cœur du sien. Mais comment faire, puisqu'à son sein j'ai bu. Mais comment faire, puisqu'elle m'a vu. J'ai le cul. J'aimerais tant pouvoir faire taire en moi les pensées de ma mère.
Divergence FM 93.9 et nous étions en direct sur Divergence, en direct du théâtre des 13 vents. Je remercie d'ailleurs toute l'équipe des 13 vents de nous avoir si gentiment accueillis. On le refera très bientôt pour les prochains spectacles et entre autres pour le deuxième semestre. Je remercie tous les comédiens et qui sont là, qui sont encore avec nous.
Merci à vous.
Sur le plateau.
Merci à vous.
On va rappeler quand même, Yves, les dates. C'est jusqu'au 9 octobre. Est-ce que tu peux nous dire les horaires ?
Ah, mais bien sûr.
Parce que c'est écrit tout petit.
Alors, dès ce soir, ce mercredi, à 19h, il y a une représentation. Il y en a une le jeudi à la même heure. Il y en a une le vendredi 1er octobre à 20h45. Il y en a une autre le samedi 2 octobre, pareil, 20h45. Le mardi, le mercredi, le jeudi, c'est à 19h aussi, le 5, 6 et 7 octobre. Et ensuite, vendredi et samedi, c'est la même musique, le 8 et 9 octobre, c'est à 20h45. Voilà.
Voilà, donc c'est la fin de ce direct. Voilà.
Le gong sonne.
Voilà, on entend sonner un gong. Un grand merci encore à nouveau de nous avoir reçus dans ce lieu que j'aime bien et que je fréquente assidûment.